Eh bien, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts pour le plat de résistance. C'est un gros morceau aujourd'hui que je vais vous parler. C'est un des moteurs de notre vie chrétienne, c'est-à-dire la foi. Et j'ai intitulé cette méditation « Soyons des héros de la foi ». Tout un programme. Et je pense que c'est possible pour chacun d'entre nous, de faire partie de ces héros de la foi. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 12 des Hébreux, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Il nous est dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins qui nous regardent. Je mets ceci entre guillemets. Tous ces témoins, bien sûr, sont dans la gloire. Ils ne peuvent nullement nous voir, mais c'est une image. Et je fais ici, j'ouvre ici une parenthèse, quand nos défunts partent, parce que parfois même les chrétiens sortent des âneries, ils ne veillent pas sur nous, ils ne nous regardent pas, ils sont dans la gloire. Donc parfois quand on dit oui, elle est partie mais elle veille sur nous, ce sont carrément, comme on dit, des carabistouilles, ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Et des fois, heureusement qu'ils ne nous voient pas parce qu'ils se retourneraient dans leur tombe, les pauvres. Donc, je ferme cette parenthèse-là, mais c'est vrai qu'il y a une grande nuée de témoins qui nous ont précédés. Et ce sont des grands hommes et des femmes de foi qui ont traversé le temps et nous ont laissé des exemples à suivre, car ces personnes ont dû affronter toute l'adversité parce qu'ils étaient parfois maltraités, incompris, mais ils ont accompli des exploits. La parole de Dieu nous dit dans ce texte, rejetant les fardeaux. S'il y a quelque chose qui freine l'épanouissement de notre foi, s'il y a quelque chose qui freine notre foi, ce sont les fardeaux. Et les actions de notre foi sont freinées. Ce sont ces fardeaux que nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Malheureusement, frères et sœurs, il faut reconnaître, en tant que chrétiens, nous sommes chargés de fardeaux. Jésus disait, pourtant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à nous débarrasser de nos fardeaux que Jésus voudrait porter à notre place. Il voudrait nous libérer de leur poids, et nous permettant ainsi d'avancer dans notre marche spirituelle, afin de ne pas être bloqué et que notre foi peut ainsi se développer. Et malheureusement, à cause de cela, notre foi est comme paralysée. La Bible nous dit de rejeter tout cela, car ces fardeaux nous collent à la peau et nous rendent malheureux. Nous n'avançons pas, nous sommes toujours, à ce moment-là, dans la défaite. Et le Seigneur veut faire de nous un peuple de vainqueurs. Je reviens aux paroles qui sont écrites dans le Deutéronome. Tu seras la tête et non la queue. Et bien souvent, nous sommes à la traîne. Nous manquons de persévérance et de foi. Frères et sœurs, il y a toutes sortes de fardeaux qui sont sur nous. Ces fardeaux, parfois, c'est l'inquiétude. On est inquiet. On est inquiet de notre avenir. On est inquiet parce qu'on entend toutes sortes de nouvelles pour l'instant qui ne sont pas fort réjouissantes. Et ça nous inquiète. Il y a le doute. Combien de fois nous sommes pris par le doute, nous lisons les promesses du Seigneur qui sont dans sa parole, et pourtant nous doutons de la réalisation de ces paroles qui sont écrites. Nous sommes incrédules. Nous disons, mais ça ne se passera plus, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien qui bouge dans nos églises. Parfois, il y a toutes sortes d'addictions aussi que nous avons et qui freinent notre marche avec le Seigneur et notre vie de victoire, que le Seigneur voudrait que nous vivions pleinement. Nous sommes stoppés dans notre marche. Oui, il y a encore un obstacle de taille empêchant notre foi de se développer, c'est bien entendu le péché. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce péché nous enveloppe, et il ajoute, il nous enveloppe si facilement. Si facilement. Nous sommes pris par le piège du péché trop facilement. Trop facilement, ce péché nous envahit et nous empêche de nous développer dans la foi. Nous tous qui avons rencontré le Seigneur, nous savons que nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Ne l'oublions pas et ne retombons pas dans ce piège, comme disait l'apôtre Pierre, allez retourner, se vautrer dans la boue comme le porc qui a été lavé, puis retourne dans la boue pour se vautrer. Faisons attention, frères et sœurs. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. C'est Éphésiens chapitre 1 qui dit tout cela. Et premier épître de Jean chapitre 1 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si nous retombons dans le péché, si nous sommes bloqués avec notre foi, sachons que le sang de Jésus est toujours efficace pour nous pardonner. Oui, les versets que nous venons de lire nous l'attestent, nous sommes pardonnés, lavés de tout péché. Mais comme nous retombons souvent dans nos mauvais travers, et ça c'est un frein pour que notre foi puisse être agissante. Notre attitude, notre façon de vivre bloque l'action de notre foi. Nous sommes surpris alors de ne pas avancer, de ne pas obtenir de réponse à nos prières. Alors, frères et sœurs, regardons à l'intérieur de nous-mêmes, s'il n'y a pas le péché qui s'accroche si facilement en nous, qui est un obstacle à notre marche, à notre épanouissement spirituel. Et malheureusement, l'action de notre foi est bloquée. Quel est l'ordre que nous propose l'écrivain de cette lettre? Car il s'agit bien d'un ordre, si nous regardons de près. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Courons, nous dit l'écrivain de cette lettre. Il ne dit pas marchons, il dit courons, car c'est à une course que nous sommes appelés. La parole de Dieu nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais, nous avons très peu de temps, frères et sœurs. Courons avec persévérance, car sur notre route nous rencontrerons bon nombre d'embûches. C'est vrai que le chemin de la foi est souvent comparé à une épreuve sportive, une sorte de marathon que nous devons accomplir. Il nous dit de courir avec persévérance, car il sait bien que notre route est parsemée de difficultés, que nous devons affronter avec foi et force. Et si nous n'avons pas l'endurance, nous n'y arriverons pas. Nous voyons souvent les coureurs cyclistes, et Albert ne me démentira pas, les coureurs cyclistes qui vont au ravitaillement pendant une course, et ils sont obligés. Et s'il y a un cycliste qui rase sa musette, ça c'est embêtant, parce qu'il va avoir une fringale pendant la course. Nous devons aussi, frères et sœurs, en tant que chrétiens, aller au ravitaillement afin de nourrir notre foi. Aller au ravitaillement. Et pour nous, frères et sœurs, ce ravitaillement se trouve dans la parole de Dieu. Ah oui, on en revient toujours à cela, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre endroit où nous pouvons le mieux nous nourrir qu'en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. Nous trouvons la nourriture nécessaire pour notre foi. Nous trouvons la nourriture nécessaire pour avancer dans notre vie chrétienne. Nous trouvons la nourriture nécessaire pour éviter les embûches et les pièges de Satan. Beaucoup de chrétiens disent n'avoir plus de foi, plus de courage. Mais prenons-nous vraiment le temps de lire la parole de Dieu? Prenons-nous vraiment le temps de la méditer, de réfléchir à ce que le Seigneur a à nous dire pour notre vie, pour nous encourager, pour nous remettre sur le droit chemin? Alors, frères et sœurs, si nous ne prenons pas ce temps de méditation, de concentration sur la parole de Dieu, ne nous étonnons pas de vivre dans la défaite. Une autre forme de ravitaillement, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, c'est la prière. Avoir ce moment de rencontre avec notre Père. Le Seigneur Jésus, par sa mort, a déchiré le voile. Et nous avons cette liberté de nous approcher de lui 24 heures sur 24, la ligne est ouverte, nous pouvons entrer en contact avec lui et prier, nous mettre en relation avec lui pour qu'il nous parle, pour qu'il nous enseigne, qu'il nous fortifie. Combien de fois Jésus, lui le Fils de Dieu, ne prenait-il pas de temps pour s'isoler et prier et avoir une relation profonde avec son Père? Abusons de ce privilège. Abusons de ce privilège afin que le Seigneur nous donne les forces pour pouvoir continuer notre route. Et une autre forme de ravitaillement, il y a aussi la communion fraternelle que nous pouvons avoir, nous encourager les uns les autres. Et c'est vrai que dimanche dernier, Jean-Luc disait que combien de fois que nous sortons de ce culte et nous ne partageons pas toujours les moments de bénédiction. Nous parlons de tout et de rien, bien souvent. Prenons, et moi le premier, l'habitude peut-être de nous encourager quand nous nous voyons, de nous remémorer, comme Jean-Luc a dit ce matin, tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Parce que des fois, une petite parole peut rebooster un frère ou une sœur qui se trouve peut-être dans la même difficulté que nous nous sommes retrouver. Oui, ces rassemblements que nous avons ici sont nécessaires aussi à notre foi. Moi, ça m'a manqué, cette communion fraternelle, ce temps d'isolement que nous étions. C'est vrai, nous avons pu bénéficier de cultes sur Internet, mais cette communion fraternelle est nécessaire aussi pour fortifier notre foi. Voyons ce que la parole de Dieu donne comme définition de la foi. Dans le chapitre 11e des Hébreux, il nous est dit ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un témoignage favorable par la foi. Nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. En clair, la foi, on est sûr de quelque chose que l'on espère, et dans notre monde matérialiste, on n'aime pas ce qui est abstrait. On aime toucher, on aime saisir les choses. Cela devient difficile de croire en l'invisible. On veut démontrer quelque chose qu'on n'a pas, c'est ça, la foi. On espère. Par la foi, on attend des choses que nous ne voyons pas encore. C'est difficile à croire maintenant. En quelque sorte, vouloir prouver une théorie qui n'est pas encore en place, c'est cela la foi. Quoi de plus démonstratif pour nous chrétiens, la théorie de la création? Nous sommes des créationnistes, il est vrai. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, nous avons difficile de prouver que c'est Dieu qui a créé ce monde. C'est vrai. Mais nous, c'est comme la parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que nous croyons que ces choses visibles ont été créées par Dieu. Et si on va par là, dans même la théorie de l'évolution, il n'y a rien non plus qui nous prouve qu'ils ont raison. Il faut aussi reconnaître que leur théorie varie suivant les recherches scientifiques, tandis que nous, la parole de Dieu est immuable et ce qui est écrit dans la Genèse n'a jamais été changé. Nous pouvons dire, oui, Dieu a créé ce monde et nous le croyons par la foi. La foi est quelque chose d'abstrait, d'insaisissable. La foi, on l'a ou on ne l'a pas. Et c'est vrai qu'il faut une sacrée force spirituelle pour posséder la foi. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La construction de l'arche, mes amis, est un des actes le plus fou que Dieu ait demandé à un homme. Dieu a demandé à Noé de construire cette arche, vous connaissez l'histoire. Et Noé et ses fils ont construit un bâtiment impressionnant, loin de tout fleuve, loin de la mer. Mais par la foi, Noé a accompli cet acte. La foi, la confiance en Dieu, nous pousse à accomplir des actes incompréhensibles pour les hommes et peut-être même pour nos frères et sœurs. Incompréhensibles même pour nous. La foi, frères et sœurs, est un acte d'obéissance et de confiance envers notre Dieu. Il ne demande que obéissance et aucune discussion. C'est comme à l'armée, un ordre reste un ordre. Et ça, c'est la foi. On doit croire aveuglément que Dieu nous conduit dans ses voies et nous pouvons lui faire confiance. Parlons d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu des promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts, c'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Et que dire vraiment de cet appel d'Abraham ? Quelle folie pour cet homme âgé de 75 ans ! Vous vous rendez compte ? À 75 ans, Dieu l'appelle à tout quitter pour aller on ne sait où. Va dans un pays que je te montrerai. Une confiance absolue en Dieu. Il part avec une vague promesse d'héritage. Il part avec une vague promesse de descendance. Et Abraham a une confiance absolue en lui. Remarquons, frères et sœurs, que vivre par la foi nous fait quitter notre zone de confort. Abraham n'avait pas besoin de tout ça, quelque part. Il avait tout ce qu'il voulait. Il était riche. Pour son époque, on pourrait dire que ce serait une espèce de milliardaire. Il avait tout ce qu'il voulait. Et Dieu lui appelle à tout quitter pour le suivre. Car Dieu a un projet pour lui. Et je pense que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas facile, frères et sœurs, mais c'est exaltant si nous voulons nous laisser conduire par Dieu. Oui, Abraham et Sarah ont reçu une promesse de descendance, mais malgré leur âge avancé, ils ont cru. Pourtant, à un moment donné, la foi d'Abraham et de Sarah a défailli. Et Sarah lui a dit, « Mais prends ma servante, tu auras un enfant d'elle. » Et on veut aider parfois Dieu, parce que nous manquons de foi. Et là, on se casse la figure. Et là, quelque part, Abraham a échoué dans sa confiance avec Dieu. Et puis Dieu a quand même répondu, parce que Dieu maintient ses promesses. si nous avons confiance en lui. Et Abraham a vu cette naissance miraculeuse de son fils. Et la foi de cet homme a grandi. Elle a grandi au point d'accepter le sacrifice d'Isaac. Quand Dieu l'appelle à sacrifier son fils, eh bien, Abraham ne savait pas non plus ce qu'il allait se passer. Même son fils lui posait la question. On a tout, mais on n'a pas l'agneau. Et Abraham dit, Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Dieu a vu la foi de cet homme, car il s'est dit, mais Dieu, comme la parole de Dieu nous le dit, va me faire récupérer mon enfant d'une façon ou d'une autre, et Dieu maintiendra sa promesse. Nos actes de foi, chers frères et sœurs, nous suivent et nous enrichissent et fortifient notre foi. Dieu nous demandant d'accomplir certaines choses incompréhensibles parfois à nos yeux, mais se réalisant parfois même dans le futur. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham n'a vu qu'une partie de la promesse. Il n'a pas vu la création du pays d'Israël. Mais ses actes de foi ont contribué à la suite de l'histoire de son peuple. Imaginons qu'Abraham n'aurait pas répondu à l'appel de Dieu. Imaginons à un certain moment qu'Abraham n'aurait pas désiré marcher par la foi, faire confiance à Dieu. Que se serait-il passé ? Frères et sœurs, quand Dieu nous demande d'accomplir un acte de foi, ne pensons pas au maintenant, ne pensons pas que ça va s'accomplir maintenant. Notre acte de foi est aussi réservé pour le futur. Et nous voyons cela dans la vie d'Abraham. Son obéissance a marqué le début d'une histoire passionnante de la création d'un peuple, le peuple d'Israël. Frères et sœurs, nos actes nous suivent. Je vous conseille de relire le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et dans ce texte, nous voyons que Dieu a utilisé de nombreuses personnes. Il y a des noms qui sont cités, David, Gédéon, Samuel, etc. D'autres ne sont pas cités, mais il nous est parlé de leurs exploits. Et si nous connaissons un peu la parole de Dieu, nous pouvons mettre un nom sur ces personnes qui ont accompli ces exploits. Ces héros de la foi. Tout cela pour vous dire que Dieu à utiliser des gens tout à fait ordinaires, des gens comme nous, mais nous avons un Dieu extraordinaire, sachant utiliser des gens ordinaires qui veulent lui obéir, et ainsi il nous conduit sur le chemin de la bénédiction. Rappelons-nous ce matin, frères et sœurs, que Dieu utilise qui veut lui obéir, et il nous sort des sentiers battus. Il ne regarde pas à la personne comme nous le ferions. Nous, quand nous voulons choisir quelqu'un pour une activité, nous le sélectionnons, nous regardons toutes les qualités possibles et imaginables que ce chrétien peut avoir pour se mettre au travail dans le service de Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Quand nous voyons les gens qu'il a utilisés, des bergers, des pêcheurs, des publicains, des traîtres, des nationalistes, des persécuteurs. Dieu prend celui qui a le cœur prêt à se laisser modeler et lui faire confiance. Ensuite, suit la bénédiction. Ne prenez pas ce que je vais vous dire. Comprenons le contexte et la disposition de cœur de la personne. Voilà pourquoi Dieu a utilisé même des prostituées. Chose que nous ne ferions pas. La parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que Rahab, il est précisé, la prostituée, il est bien signalé, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Nous nous rappelons cette histoire-là, que cette femme a protégé les espions qui étaient venus en Israël. Cette femme a eu la vie sauve, elle et sa famille, parce qu'elle avait des dispositions de cœur qui ont changé sa vie et qu'elle avait la foi pour croire à la promesse que lui ont fait les espions, venus voir le pays, qu'elle aurait la vie sauve, elle et sa famille. Et nous voyons Jésus aborder dans le même sens, en parlant aux gens religieux de leur époque, qui n'avaient aucune foi en Dieu, mais une foi dans la religion. Il dit ceci, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. » Nous trouvons ça dans Matthieu 21. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, frères et sœurs, pour accomplir son œuvre. Il cherche des hommes et des femmes ordinaires remplis de foi. La parole de Dieu nous dit que la foi soulève les montagnes. Quelles sont les montagnes auxquelles nous devons faire face ce matin? Quelles sont les montagnes qui sont devant nous, frères et sœurs? Et nous en avons tous. Et je me pose la question, pourquoi? Pourquoi ne se déplacent-elles pas, ces montagnes? Pourtant, la parole de Dieu nous dit que les montagnes se déplacent. Frères et sœurs, parce que il y a un manque de foi et de persévérance, car par la foi, nous déplaçons ces montagnes. Et je peux dire que dans ma vie chrétienne, j'ai pu voir des montagnes se soulever. Et je crois n'importe qui ce matin, comme il nous a été demandé de nous rappeler les bienfaits de Dieu, nous pouvons dire, il y a eu des montagnes qui se sont déplacées parce que nous avons usé de foi, de confiance en Dieu. Alors ce matin, quelles que soient les montagnes qui se dressent devant nous, déplaçons-les au nom de Jésus. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, car Jésus avait à ce moment-là maudit un figuier, il était devenu sec, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et je peux dire, frères et sœurs, nous avons encore des prières non exaucées. J'en ai, vous en avez. Et nous nous posons parfois la question, pourquoi? Pourquoi telle chose nous est arrivée? Pourquoi je ne vois pas la main de Dieu agir? Pourquoi mes enfants ne viennent pas au Seigneur? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Frères et sœurs, ce sont les montagnes qui sont devant nous ce matin et que Dieu voudrait voir bouger. Mais cela ne tient que de nous. Dieu ne va pas toujours faire le travail à notre place. Il veut que nous ayons cette confiance absolue, aveugle, je dirais, en lui, la foi. Frères et sœurs, saisissons le bouclier de la foi. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Si nous n'avançons pas, c'est parce que notre ennemi est là. Et notre ennemi ne veut pas que ces montagnes bougent. Rappelez-vous du serviteur d'Élisée qui dit, « Mon Seigneur, comment allons-nous faire? Nous sommes entourés par une armée. » Et Élisée prie, ouvre les yeux et il voit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et ça, on l'oublie. On l'oublie, frères et sœurs. Moi, le premier, j'oublie que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et c'est pour cela que nous n'avançons pas, que nous sommes freinés dans notre foi, que je suis freiné dans ma foi. Parce que j'oublie. J'oublie qu'autour de nous, il y a l'armée de Dieu. Et nous, ça, nous ne devons jamais l'oublier. Voilà le secret de la victoire, frères et sœurs. Voilà le secret d'une vie chrétienne riche et bénie. Et si nous doutons au sujet de notre foi, ça peut arriver. Disons comme le père de cet enfant qui était possédé et qui s'adresse à Jésus et qui se rend compte qu'il manque de foi. Il dit en larmes, « Seigneur, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Ah, nous sommes des chrétiens de longue date. Nous sommes des chrétiens de longue date pour certains qui avons vécu des choses extraordinaires et pourtant il nous arrive encore de douter de la puissance de Dieu. Nous doutons encore de la puissance de Dieu, nous sommes incrédules. Et ce matin, faisons cette même prière que cet homme, Seigneur, Viens au secours de mon incrédulité. Ranime ma foi. Ranimons ce don de foi qui est en nous, que le Seigneur ne nous enlève pas, que nous puissions avancer, avancer dans notre marche avec le Christ. Seigneur, j'ai la foi, mais elle est petite. Seigneur, j'ai la foi, mais je doute. Seigneur, j'ai la foi, mais je ne crois pas toujours en tes promesses. Viens à mon secours ce matin. Seigneur, viens à mon secours. Que soit notre prière ce matin, la mienne, la vôtre. La parole de Dieu nous dit, il faut que tu sois la tête et non la queue. Combien de fois nous sommes la queue? Combien de fois nous, en tant que chrétiens, nous faisons pitié au lieu de donner envie? Nous sommes malheureux, nous sommes tristes. Notre foi, où est-elle? Ma foi, où est-elle? Seigneur, ce matin, ranime ma foi, ranime le zèle. Seigneur, ce matin, fortifie ton peuple, que nous puissions ce matin être des vainqueurs et non pas des vaincus, que ce matin nous soyons ces héros de la foi que nous pouvons, on puisse nous citer. Regardons cette nuée de témoins qui est autour de nous, qui ont combattu comme nous, qui ont vécu comme nous, mais qui ont été vainqueurs. Oh frères et sœurs, notre désir ce matin, le mien en tout cas, c'est que notre foi grandisse, que nous soyons renouvelés et fortifiés. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, vous avez entendu, j'espère. Ce n'est pas des paroles de moi, j'ai tout tiré dans la parole de Dieu ce matin. C'est des paroles qui ont été tirées de la Bible. Mon souhait, frères et sœurs, c'est que nous puissions chacun marcher par la foi. C'est dur, c'est vrai. C'est très dur de marcher par la foi parce que, comme je dis, on sort de notre zone de confort et on doit croire à l'invisible, croire à des choses que nous ne voyons pas, mais que nous possédons déjà dans notre cœur. Gardons la foi, développons notre foi. C'est une marche, c'est un exercice journalier que nous devons avoir. C'est comme la gym, c'est comme le vélo, c'est comme la natation. Il faut persévérer. Courons, nous dit la parole de Dieu, courons, car il y a quelque chose de merveilleux après. Frères et sœurs, ce matin, si vous vous sentez faible, petit, triste, insignifiant, je peux en dire des qualificatifs, hein, parce qu'on se minimise tellement, là, on se trouve vraiment moins que rien. N'oublions pas. N'oublions pas que nous avons un Dieu extraordinaire qui se sert de gens ordinaires pour les utiliser. Et alors, si nous laissons Dieu prendre notre vie, nous serons des héros de la foi. Amen. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu nous vois. Moi le premier, Seigneur. Je doute. Je crains. Je suis parfois incrédule, Seigneur. Ô Seigneur, ce matin, apprends-nous à revivre par la foi, parce que nous avons tous mis notre foi en avant et nous avons vu des choses extraordinaires. Mais Seigneur notre Dieu, apprends-nous encore à vivre par la foi. Ô Seigneur, par la foi, nous voulons croire que cette Église peut se développer. Nous croyons que cette Église peut grandir, Seigneur. Nous croyons que tu peux guérir. Tu peux visiter, tu peux sauver encore. Seigneur, tu n'es pas changé. C'est nous qui avons douté de toi. Oh, pardon, Seigneur, pour nos doutes. Seigneur, nous voulons mettre notre confiance et notre foi en toi. Merci, Seigneur. Amen. Thank you.
Oh, Amen.